Ben, ça nous dit l'entièreté de sa louange, non seulement il est tzadik, selon le Maldon, tzadik ça veut dire dans le rapport avec autrui, il ne fait pas de mal, hein, mais Talmud, c'est au niveau de sa valeur spirituelle propre qu'il est intègre, hein, et c'est tout que j'en ai dit. Oui, donc le premier verset, il parle de noir alors que noir n'est pas présent. Alors on nous dit l'entièreté de sa louange, c'est bien ça, non seulement il est tzadik, mais il est tamim, mais il est en ce moment en hébreu, il est tzadik tamim, mais... Alors que là, c'est Dieu qui parle à Noir, et Dieu parle à Noir, mais lui qui parle l'entièreté de sa louange. Bon. Vous suivez? Alors nous avons déjà, je pense, suffisamment d'éléments. Avant cela, je vais terminer un peu avec ce verset. Mais après tout, nous savons d'une façon générale que c'est pas par sa vertu que Noir a été sauvé du déluge. Je ne sais pas si vous avez étudié le début de la paracha de Noir, mais je vais vous rappeler très rapidement. La fin du dernier verset de la paracha de Bereshit, qui nous rappelle, qui nous explique les causes du déluge qui va venir. Cette fin des sursis donnée à cette tentative de la civilisation qui avait commencé dans le mal, avec Caïn et Abel, et l'aggravation, la saturation de violence que cela finit par mener dans la société humaine de ce temps-là, et le verset dit que Dieu a décidé de détruire toute l'humanité. Il y a un midrash qui précise tout, qui nihamti, qui asiti, y compris Noir, dit le midrash. Et le dernier verset, ça fait donc le verset 8 du chapitre 6, qui nous dit vraiment Noir, matzachem beine Hachem. Le Noir a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Suivez bien tous les éléments. Ça veut dire que Noir a trouvé grâce aux yeux de Hachem, c'est pas par son mérite qu'il a été sauvé du déluge. C'est clair? Et pourtant, le verset suivant nous dit qu'il était injuste. Qui est ce Noir? Ich tzadik tamim haya. La Torah ne veut pas que nous croyions qu'il n'était pas tzadik. Mais nous avons enseigné que sa manière d'être tzadik n'était pas suffisante pour qu'il mérite d'être sauvé du déluge. C'est clair jusque-là? Et alors, la réponse donnée par le Midrash, c'est que si parmi tous les juges de cette catégorie-là, il y en avait beaucoup. Le Midrash nous cite par exemple un grand d'entre eux qui était Metushalar. Vous avez peut-être pas le droit d'évaluer avec quel étalon, mais plus grand que Noir, peut-être. Peut-être, parce que Noir a eu le mérite d'obtenir 120 ans de sursis et du déluge, mais grâce à Metushalar, il y a eu encore 7 jours de plus, donc c'est un peu plus. Parmi tous ces justes-là, pourquoi c'est Noir? Il a trouvé grâce. C'est-à-dire, à son niveau d'un jugement d'instantané, eh bien, il y aurait là un arbitrage pur et simple. Il a trouvé grâce, il n'y a pas de raison, il va décider comme ça. La Torah ne veut pas que nous croyons cela, que c'est arbitraire, qu'il n'y a pas de raison. Il y a une raison. Il y a une raison d'aller très cachée chez Noir. La réponse de Noir, c'est que si Noir a été sauvé, c'est que parmi tous les justes analogues de ce temps-là, il y avait une différence en lui que personne ne pouvait diagnostiquer, sauf Dieu qui voit toutes les générations. C'est qu'il portait en lui Abraham. Vous comprenez bien. Et par conséquent, tout cet ensemble d'indications, c'est d'ailleurs juste là, sans contredire notre verset. Puisque dans notre verset, le verset 1 du chapitre 7, le verset dit clairement, « La yomé rachem de Noah, boata rechobetecha la teva, qui otra raïti tzadik le paraï badof badova. » Vous avez compris la difficulté? Donc je sais de vous la résoudre simplement. Si vous comprenez, quand c'est simple, ça va, sinon on va compliquer. Mais la journée, c'est simple. Voilà, il y a un mot dans le verset qui vous donne la réponse. Qu'est-ce que le verset dit en hébreu? Qui ôtera raïti tzadik lefana. Il me suffirait que le verset dise qui réitira tzadik lefana. Que je t'ai dit. Mais l'expression employée en hébreu, et là les hébraïsants comprendront plus vite, mais je vais essayer d'expliquer, il y a ce mot de ôtera qui indique le complément de verbe dans la grammaire hébraïque, mais le mot de hôte en hébreu signifie aussi d'autre part un signe. Alors je peux lui dire, je ne sais pas moi, mais vous pouvez dire de la manière suivante, car en toi, ôtera un hôte de toi, j'ai dit, ça dit devant moi. Pas toi, un hôte qui est en toi et qui est à voir. Vous suivez? Et donc on a le midrash dans le texte. C'est clair? Bon. Mais c'est clair pour tout le monde, donc il n'y a plus de contradiction. Mais ce n'est pas encore là l'explication vraiment. L'explication vraiment, c'est qu'il y a une dialectique de mots employés par le texte pour dire Dieu. Lorsque Noir est défini comme tzadik, c'est par rapport à Elohim. Vous rappelez cela? Et du verset
est un retour de la lettre noire, c'est-à-dire un certain niveau de piété, de sainteté naturelle. Je reviens peut-être à l'analyse de tout le début. Abraham a été dans ce niveau de piété jusqu'à un certain temps, mais il a réussi cette mutation qui fait qu'il est devant Hachem. Mais Dieu est non seulement garant du fonctionnement stabilisé des lois de la nature, mais porteur de la promesse d'une espérance pour l'avenir. Hein? Là, le texte en parle au nom de Hachem. Tout ce qui est encore d'inaccompli, c'est Hachem qui parle. Donc, tout ce qui est déjà accompli, c'est Elohim qui parle. Hachem voit Elohim, mais c'est de nouveau différent. Et cette différence-là nous résout tous nos problèmes. Nous résout tous nos problèmes. Tous nos problèmes. Lorsque Hachem parle, alors il parle de son diagnostic vis-à-vis des Noirs, ce Noir qui avait trouvé grâce aux yeux de Hachem parce qu'il n'avait pas un goût de mérite suffisant, un goût noir pour lui-même. Il y a un signe en lui qui a ce mérite-là devant Hachem, c'est Abraham futur. Et seul Dieu lui-même, en tant que Hachem, peut savoir que Noir porte Abraham. Les contemporains ne peuvent pas comprendre pourquoi ce Noir qui est rescapé du déluge, lui-même ne peut pas le savoir. Dieu seul le sait, mais nous savons que ce n'est pas arbitraire. C'est le Dieu. C'est vraiment une grâce gratuite, mais elle n'est pas arbitraire. Pour faire la pige à Pascal. Bon, vous avez compris le... Ça nous remet aussi notre question, pourquoi il n'y a pas le mot de Tamim dans ce verset, le verset 1 du chapitre 7, pour Noir. Vous comprenez la réponse? Par rapport à Elohim, Noir est tzadik Tamim, mais par rapport à Hachem, il est tzadik, pas encore Tamim. Donc notre question de tout à l'heure, comment dire de Noir qu'il est Tamim, alors qu'Hachem le demande d'Abraham qu'il n'est pas encore, c'est vrai, il n'y a plus de problème. Vas-y, c'est vrai, il n'y a plus de question. Vous avez une question? Vous avez une question? Ça va? Bon. Alors, je vais me baser sur, d'abord, vous lire le Midrashim concernant notre verset 1 du chapitre 17 cette fois. Reprenons ce verset-là. La vie en plan Beltishim Shana Beteshar Shamim, verset 1 du chapitre 17. Et Abraham était âgé de 99 ans. Il y a Hachem et Abraham, et Hachem se révèle à lui, à Abraham. Il y a Mirel à l'Élysée, Adonai Shaddai, je suis le Dieu Tout-Puissant. Si nous avons le temps tout à l'heure, je reviendrai sur El Shaddai, je vous poserai la question. Je vous ai déjà demandé de me. Vous avez une question à réserver déjà, non?
Non.
C'était quoi? Quoi? Mettez ces choses-là parce que je dis. C'était quelle question? Ah, c'est pas la référence de la promesse de la Torah.
Oui,
c'est ça. Et là, mais ça, je vais oublier. Allez, je vais voir. Tout à l'heure, le fanal, je vais vous donner. Je vais vous donner sur le Midrash. Nous pouvons avoir le Rashi, tout simplement. Alors, prenez le Rashi sur le Yotamim. Prenez la fin de Rashi. Il finit le Rashi. D'après le Midrash, il fait le Midrash. Tout à l'heure, le Fanaï, de Mitzvah Mila. Conduis-toi devant moi, ça concerne la Mitzvah de la Mila, de la circoncision. Et bien d'abord, Azet y est Tamim. Et par cette chose-là, de la circoncision, tu seras Tamim. Et j'ai vraiment des textes qui vont utiliser ce Midrash. Par exemple, dans un des plintimes qu'on chante à la Brit Mila, il y a la formule suivante. Yomikra Shalom al Ad Shemal Orla. Il n'a été appelé parfait que lorsqu'il a que lorsqu'il s'est circoncis. C'est la chose de Bouddha. Ça veut dire que Tamim, ça veut dire un tel parfait physiquement, en tant que le corps physique est le véhicule de la présence de la personne, il est fait de la personne. Et c'est un peu cela que je vais étudier avec vous aujourd'hui. Chez Kozman, chez Aorla Becha, car tout le temps il y a cette impureté en toi, à Tabaal, non, tu es un défaut. Alors le Chatham Sofer a posé la question de la manière suivante, sur ce point précis de ce rachis que nous venons d'étudier. Par exemple, dans la Masoret Nedarim, il y a Gedola Mila, la mila, la mitzvah de la mila est grande, chez quoi la mitzvah chez Asa Avraham Avinu, le Nikra Shalem, c'est la même idée. Tous les commandements qu'avait accompli Abraham, il n'a pas été nommé parfait, ad shemal, jusqu'à ce qu'il se soit circoncis, chez Nehemar, il avait fait fanaï, il avait été nommé. Effectivement, c'est le verset qui introduit directement les commandements de l'alliance de la circoncision. Alors, le Sfat Emet a posé la question de la manière suivante en disant comment se fait-il, un peu notre question de tout à l'heure, que de Noir on a dit qu'il est Tamim, et que d'Abraham, il n'est pas encore Tamim. Il part de ce Rashi. Il dit qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre dans Rashi. Rashi nous dit que tant qu'Abraham n'est pas circoncis, il a un défaut. Et maintenant qu'il est circoncis, il est parfait. Mais n'importe quel physiologiste vous dirait que c'est l'inverse. Que c'est quand il est circoncis qu'il est hasser de Rashi, qu'il lui manque quelque chose. Et vous voyez la suite de Rashi qui dit le hasser, ba'almoum, ça veut dire hasser, il lui manque quelque chose. Mais alors, Khatam Sofler, explique de la manière suivante. Je l'ai fait un peu la vision déjà tout à l'heure en parlant. C'est que le corps est levé au point de la présence de la personne, du nefesh, de la neshama, voilà, et à qui est demandé l'accès à la sainteté. Et lorsque la personne est capable de sainteté, elle reçoit les lumières de la sainteté, et c'est le signe que son corps a pu être véhicule de lumière correspondant à chaque point de son corps, à chaque organe de son corps. C'est un grand principe dans la tradition de la Torah que, ça vous apprendrez dans les autres cours, que quel que soit le niveau du monde, la structure de chaque monde est parallèle à la structure du monde supérieur ou inférieur. Je veux dire, le monde spirituel est dans la même structure que parallèle au monde physique. Tout ce qui est dans le monde physique, il y a dans le monde spirituel à la manière du fait d'être spirituel. Tout ce qui est dans le monde spirituel, il y a dans le monde physique à la manière du fait d'être physique. Une analogie terme à terme et une correspondance absolue. La formule est tout ce qui est en bas vient en haut, tout ce qui est en haut vient en bas. Mais en haut à la manière d'en haut, en bas à la manière d'en bas. Voilà, la personne humaine ne peut recevoir cet influx de lumière de sainteté que si elle dispose d'un véhicule qui puisse les recevoir. Et par conséquent, plus un organe est metukam, et plus il reçoit, et plus il est tamim comme organe, plus il reçoit de orot. Vous avez compris en français ou je traduis en hébreu? C'est clair. Et alors, il explique comme cela, c'est que dans le monde de la nature, et c'est vrai à l'échelle de l'individu, mais on verra à l'échelle des générations aussi, il y a ce que la Torah appelle la orla. J'expliquerai ça en disant la partie de l'échec, la partie devenue opaque, qui est une finalité purement ponctuelle, qui est une finalité purement circonstancielle, dont on pourrait se passer, et ici il y a une mitzvah de s'en passer, mais qui est amenée par le fonctionnement de l'existence, des choses qui font que le fruit est une écorce. Et ça s'appelle des écorces. Par exemple, une raison, c'est une partie du corps tellement opaque qu'il n'y a aucune lumière qui ne lui corresponde ou qui ne puisse venir. Par conséquent, c'est d'Afka, nous dit Sfatané, l'erreur de ce que le physiologiste aurait dit. Si on a ce surplus d'opacité, c'est un défaut. C'est quand ce surplus d'opacité, qui est appelé impureté et ablation, alors là que la lumière correspondante peut enfin venir. On a résolu le problème. Et le Sfatané explique cela. C'est deux niveaux, c'est la différence de deux niveaux entre noir, duquel on a dit Tamim, par naissance, par existence, et Abraham qui doit conquérir cette limite, qui doit l'obtenir par des changements.
Et alors,
ce que je veux dire, c'est ceci. Et effectivement, c'est une dans le récit de l'histoire d'Abraham. C'est lui qui doit prendre l'initiative. C'est lui qui opère un changement. Il change de pays, il va changer de nom, il change d'endroit, il change de nom, et le changement, par la mila. Et chaque génération aussi est comme l'organisme. Dans les générations, il y en a hors là. Et pour toute cette première période de l'histoire de l'humanité, la Orla de l'humanité, c'était la génération du déluge. La génération du déluge était tout entière Orla. Il fallait donc enlever la Orla pour, ça se fait par le déluge, pour pouvoir, comment dire, sanctifier, iconiser l'humanité, un seul, et sauver de cela. C'est Noir qui va naître circoncis, parce qu'il porte là le signe de la circoncision qui sera demandé à Abraham. Apparemment, on pourrait croire que quelqu'un qui est circoncis est supérieur à celui qui doit se circoncire, et finalement, il y a au moins une dimension très importante qui révèle que c'est l'inverse. Cette supériorité de nature va rester, c'est pas rien d'être né circoncis. De notre temps, c'est un miracle. C'est un produit statistique de la loi des grands nombres. Je crois que c'est sur 10 000 enfants qui naissent, il y en a un qui naît circoncis. Ne vous affolez pas si ça vous arrive. Mais on parle de ce cas particulier. On va faire quand même une forme de circoncision, comme vous savez. Mais le cas particulier de Noir est quand même un cas exceptionnel. Et là, voilà comment le statut nous a aidé à un peu comprendre notre problème. On en revenant au thème général, c'est le fait qu'Abraham ait inventé cela. C'est lorsque Abraham a nous dit le Midrash, Dieu lui a demandé la circoncision, mais il ne savait pas comment la faire où dans le corps. Et Abraham, lui, a établi, d'après d'ailleurs la sagesse ancienne, que c'était comme nous savons que ça se fait, que ça doit se faire, alors que la circoncision a pu se faire. Donc c'est Abraham qui a de lui-même pris l'initiative de faire ce qu'il fallait faire. C'est encore clair ce que je veux dire. Retenez simplement cette notion de opacité qui fait l'impureté. Et les négations en général utilisent, parlent de ce thème du point de vue des valeurs morales, c'est-à-dire ce qui renvoie à la jouissance, à un surcroît de jouissance, rend plus facile une production spirituelle. On peut le dire de différentes manières. Ce qui est renvoyé à la gashmiut est ajouté à la rochaniut. C'est clair ce que je dis. Mais peut-être quelque chose d'un peu plus profond encore qu'utilise ce maître du Moussard, c'est le fait que d'une façon générale, on apprend surtout de l'enseignement de la Kabbalah, que il y a une partie de l'être que Dieu a créé qui finalement est enfouie, je pourrais dire engluée, prise dans l'impasse, d'une sorte d'attitude que je veux dire de façon anthropomorphique, de recevoir plutôt que de donner. Et le signe dans le corps humain de cette attitude qui consiste à recevoir plutôt que donner, et qu'on appellera donc dans les analogies, en établissant les analogies de tout à l'heure, l'impureté, l'opacité, c'est précisément les parties du corps qui donnent la jouissance. Donc amoindrir cette capacité de jouissance, c'est reconnaître le Créateur. C'est pourquoi l'alliance de la circoncision est définie comme l'alliance de la foi d'Abraham. C'est envoyer cette, je sais pas comment dire, cette excroissance existentielle que la nature donne, et de toute façon d'être tamou, l'Ifnei Hachem. La question qu'on pose habituellement, c'est bon, ça concerne les garçons et les filles. Alors, je ne parle de cela que par allusion, il faut marcher sur des œufs, mais je veux la réponse de la Torah. On devrait considérer que les femmes sont circoncises de naissance, alors que l'homme doit accomplir la circoncision. Ça, on apprend d'un épisode plus tard dans l'histoire de Moïse en particulier, lorsque Moïse n'avait pas circoncis son fils, quand il s'était enfui de chez le Pharaon, et puis finalement, après la vision du buisson ardent, il retourne en Égypte sur l'ordre de Dieu, et puis il ne prend pas la précaution de circoncire son fils. Tout à l'époque, on étudiera les raisons pourquoi il n'a pas circoncis. Et finalement, il a failli en mourir, Dieu voulait le punir. Et c'est Stipera, sa femme, qui prend l'initiative de circoncire l'enfant. Et elle dit une formule sibylline dans ce verset, Hatan Damon Lamoyot. Vous connaissez l'expression. Dit tu es prince du sang pour celles qui sont circoncis. Là, le Midrash dit, elles sont circoncis de nature. Alors j'en dirai pas. Ça veut dire qu'elles sont déjà dans leur nature même proches de la volonté du Créateur, et cette obligation d'avoir à prendre l'initiative de rejoindre ce niveau-là est donné. Bien, mais je vous ai dit peut-être un peu l'essentiel de ce que vous voulez dire sur cet homme. C'est le fait que précisément ce courage de la mutation d'Abraham au moment de la circoncision qui fait que tout ce qui était resté en suspens alors va se réaliser. Alors vous avez maintenant l'ordonnance de tous les récits qui suivent dans la paracha de Vaera, et pourquoi la tradition a tenu à nous donner cette préface-là dans le récit de ces événements que je vous ai dit accélérés. C'est bien l'impression qu'on a chaque année que lorsqu'on relit le texte à la Torah, c'est que subitement dans la paracha de Vaera, tout ce qui était en suspens jusque-là va s'accomplir. Ne plus que dans les commencements. Bon, si vous avez des questions là-dessus, est-ce que je vais m'en
mettre?
Ah, attendez que je revois que la vidéo. Bon, la fin de cette nuit. Bon, ça, c'est un terme qu'on a l'habitude d'étudier dans une autre paracha de Machinot, la paracha de Vaera, par la Vaera comme ici. Vous allez voir ce que Midrashot a dit à ce propos. Alors, nous sommes toujours sur le verset 1 du chapitre 17, Ami El Shaddai. Ami Rish Lakish. Rish Lakish a enseigné. Non, dit-il, Ami El Shaddai. Que signifie le fait qu'il soit écrit Je suis le Dieu Tout-Puissant. Le texte nous dit que c'est en tant que Hachem que Dieu se révèle à Abraham, et Hachem lui dit Je suis El Shaddai. Réponse de Rish Lakish, alors que je vais répondre, voilà ce que Dieu lui dit. Je lui dis Allez-vous chez Amarti, la Olam Dai. C'est moi qui ai dit au monde jusque-là. En fait, cette formule doit être élargie par le Talmud lui-même, juste dans ce même contexte, que le réfère étymologique du Mouvement Shaddai. Le mot de Shaddai est rattaché à la racine de Shaddai. Le Shaddai, vous avez Shod en Aldab, Shodadi, les résidents. Ça veut dire que, disons, en plein dans notre sujet, lorsque Dieu intervient comme El Shaddai, ça veut dire dans une intervention qui bouleverse les structures conditionnées du monde naturel. Comme il opère comme un Shaddai. Qui doit briser la vitrine pour prendre les murs. Parce que sinon, je ne peux plus. C'est un peu ce qui s'est passé là, dans l'analyse des attendus de la foi d'Abraham. Il fallait qu'il accède à ce niveau de foi, d'arriver à comprendre cela, qu'on peut faire éclater, je vous rappelle, j'ai dit exploser, c'est ça, faire éclater le conditionnement, et qu'il puisse y avoir de nouveaux fécondités pour une souche qui se croyait devenue stérile. C'est très important de comprendre que c'est un des thèmes de l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ils se croient, comment dire, dépouillés des promesses, est-ce que c'est vrai que ça me concerne encore, peut-être c'est passé ailleurs, dévitalisation complète, et puis subitement, ça arrive. Ce qu'on attendait, ça arrive. Et cette capacité de foi, c'est cela seulement qui peut expliquer ce mystère de la permanence du peuple juif dans son identité à travers l'histoire biblique. C'est-à-dire, comme je disais souvent, tous les matins dans la prière, on a dit pendant 2000 ans, « Achrelo, matotrelkelo, monaim goralemu, comme nous sommes les plus heureux, personne n'est aussi heureux que nous. » On a dit ça dans les ghettos, on a dit ça dans les crématoires, on a dit ça dans l'histoire juive. Et contraste avec la réalité totale. C'est-à-dire, il faut être fou pour avoir une foi pareille. Il faut être compréhensible. Et puis, finalement, c'est arrivé. Ça veut dire qu'on avait foi en Hachem. Que quelles que soient les apparences des conditionnements naturels, on avait foi contre toute espérance au niveau des conditionnements naturels. Et puis, finalement, en fait, c'est arrivé. Que ce en quoi on espérait arrive. Mais pour que ce en quoi on espérait arrive, il faut effectivement qu'il y ait chez nous la marque, que les structures du conditionnement habituel soient diverses. Les contemporains ne s'en rendent jamais compte. C'est aux gens des générations postérieures qui se disent à cela, c'était des géants. Hein? Et lorsqu'ils parleront de Pierre et de Chamy, première mondiale d'un gouvernement bicéphale. Mais les contemporains n'arrivent pas à voir ça. Mais ce qu'ont vécu ces trois générations de avant la Shoah, pendant la Shoah, après la Shoah, se rendent compte que là, s'est passé quelque chose qui était en cours d'histoire depuis 2000 ans et qu'ils y croyaient. Tout le monde y croyait, mais ils y croyaient. On va vous dire que c'est j'avais cité une fois à ce propos ce que j'avais lu à propos, qu'on a raconté à propos d'un des derniers grands rabbins de France qui s'appelait Zadok Khan. C'est vraiment un homme d'une très grande stature, Talmud Chacham. C'était peut-être le seul rabbin de son époque en France qui s'est réveillé de l'autre. Je vous raconte une petite anecdote. Un jour, moi je suis originaire d'Algérie, mais un jour on a été invité par une personnalité rabbinique déjà très importante venue de France. Je crois que pour une cérémonie, il fallait honorer un des rabbins du pays. Je me rappelle très bien une phrase qui m'a frappé. Et il était sincère, ce rabbin honorant. Il disait aux fidèles, là, vous ne savez pas qui est votre rabbin. Il sait lire dans un livre où il n'y a pas de voyelles. Alors, je vous savez, vous avez bien ça. Voilà. Alors, en raconte de lui, c'est un jour qui avait demandé, étant donné l'état d'assimilation complète qu'avait l'époque, étant une philippe. Alors, on dit, est-ce qu'il faut encore espérer, tous sont encore en croix pour la bonne histoire. Est-ce qu'il y a encore un espoir? Vous avez répondu, il n'y a pas d'espoir, mais il faut continuer à faire comme s'il y en avait. Et finalement, il y a des juifs français qui ont des qui sont arrivés. Vous voyez, c'est à peu près ce stade-là. C'est-à-dire, si on se laisse à connaître, à comprendre, à être en phase, chacun de nous, vous comprenez l'idée, avec ce que l'on sait de la vérité de l'histoire du monde créée par Dieu, et garantie par lui, ces moments-là sont garantis par le Créateur, il n'y a plus d'espoir. C'est fini, assimilation complète. Et puis, voilà, finalement, subitement, tout se déverse. Et aujourd'hui, comme il savait en France, par exemple, si je parle de la France, il y a une espèce de coquetterie d'avoir des diplômes de gros, c'est aller aussi que par rapport à ce que j'ai connu à la fin de ma jeunesse. Quand au lycée, on parlait de l'hébreu, je dis langue morte. Moi, j'étais un tout petit juif quand ça dans la classe, je n'osais pas dire, et tant que t'auras, tu sais ce que c'est? Non, il ne savait pas, je ne pouvais pas comprendre. Me dire à mort, ça, langue morte. Alors que j'apprenais l'hébreu vivant en certains lycées. Donc, et là, mais c'était quand même objectivement la situation. Alors, ça c'est la racine, vous voyez comment ça se rattache à notre... Chaque fois qu'il y a une promesse faite, elle est faite au nom du Dieu Israël. Pourquoi? Parce que pour qu'une promesse s'accomplisse, il faut qu'il y ait un... Chez nous, comment dire en français, j'ai déjà oublié, une destruction de... Déjà, exactement. L'exemple de cela nous est donné par notre récit. Chaque fois qu'un enfant naît, c'est un mystère de type la naissance d'Isaac. Il faut que quelque chose de sur la nature apparaisse dans la nature. Mais alors nous sommes victimes de cette prodigalité de cette bénédiction. Là, comme vous savez, on en parle souvent, la prodigalité de la bénédiction, banalise la bénédiction, on se rend plus compte que toute naissance est un miracle, et pas seulement la naissance d'Isaac, simplement on nous l'a raconté pour Isaac, mais toute naissance c'est la même chose. C'est quoi ce sujet? Quand une valeur est donnée avec prodigalité, elle n'a plus le. On perd finalement le goût de la presse. Je pense que l'idée est comprise. Et alors, le message va intervenir sur cette étymologie. Et là, j'ai mis plein de migrations là-dessus. Il y a encore d'autres migrations à venir dessus. Et là, chez Dai. Dai, ça veut dire assez, limite. Et Rish Lakish nous a fait dire comme ça, chez Ama, le Olamo Dai, qui a dit à son monde jusque-là, c'est pas plus. Et la formule développée, c'est chez Ama, le Yerakuto Dai, mais chez Ama, le Olamo Dai. Il y a encore une autre formule, chez Ama, la Shamanu de la Aretz Dai. Chaque fois, il y a une nuance. Ça veut dire que le faisceau des définitions qui vont ensemble, le Dieu de la promesse, c'est le Dieu dévastateur de la nature, enfin des conditionnements naturels, au niveau de la nature pour avoir une autre connotation, et c'est le Dieu des limites. Dan, c'est la limite qui a entre l'ère d'expansion de la divinité et l'ère d'expansion de son monde. C'est-à-dire que Dieu a dit à sa divinité jusque-là et pas plus pour laisser une place pour le monde. Et Dieu a dit à son monde, jusque-là et pas plus, parce qu'il l'a créé avec une force telle que le monde pouvait envahir tout l'espace de l'être. On n'y va plus maintenant, oui, contre les mots. Or cela, cette excroissance indue, non due, non méritée, eh bien, l'exemple, c'est la règle de la vérité. Et c'est pourquoi, sur ce point précis, c'est le terme de El Shaddai qui est relié à l'annonce de la vérité. Et en général, vous le trouvez, chaque fois qu'il a la promesse, surtout la promesse de l'engendrement. Voilà un petit quelque chose pour ta pour la question. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir? Allez, je vais vous chercher ce verset dans la parasha de Lech Lecha, de la promesse de la Torah pour la descendance d'Abraham. Okay? Alors, je crois pas que c'est dans Lech Lecha, sauf ce. C'est dans Vayera. Voilà, c'est dans Vayera. C'est verset 18 du chapitre 18. En réalité, c'est verset 19, mais je commencerai à verset 18. C'est quand. Page 73, dans le livre. C'est-à-dire, dans le texte précédent de la paracha de Lech Lecha, c'est indiqué de façon allusive par l'expression « Tu seras bénédiction pour les nations ». Tu seras bénédiction pour les nations en quoi ? Tu es pour le porteur de la Torah. C'est clair. Mais on ne sait pas encore que c'est ça. Et ici, c'est bien précisé. Verset 18. C'est la seule, c'est quand Dieu va annoncer qu'il va expliquer à Abraham le jugement de Sodome et de Gomorrhe. C'est dans ce contexte-là. Abraham est destiné à devenir une nation grande et puissante. Et se bénirons en lui toutes les nations de la terre. C'est pourquoi je vais lui faire connaître. Connaître quoi ? J'explique comment j'interviens dans ce jugement, afin qu'il enseigne ses fils et sa maison après lui. De Chamirou de Rechachem, et ils observeront la voie de Dieu, la Hassoutse d'Akal Mishpat, pour agir selon le droit et la justice, le Ma'am, Yerou, Hachem à l'Abraham, afin que Dieu fasse venir sur Abraham, et caché du Barthi Arabe, ce que j'ai dit à son sujet, c'est-à-dire que les promesses que je lui ai faites s'accomplissent. Et voilà l'indication que c'est la descendance d'Abraham qui va avoir expérience de ce que c'est que la Torah. C'était cette référence que je voulais vous indiquer. Et là, nous sommes beaucoup au bout, dans l'enseignement du Maharal, dans le Rosh Hashanah, que pour comprendre l'identité d'Israël, ce qui est un grand mystère de la lecture de la Bible, qui est cet être Israël ? Pourquoi finalement Dieu s'adresse à Israël en lui disant Béni Bechori Israël, etc. Il faut comprendre tout ce qu'on veut dire. Notre identité que nous vivons dans ce thème si complexe et si nuancé et si compliqué de la vie de la société juive, aujourd'hui déjà de la société israélienne, c'est clair à la racine de notre identité au niveau de l'identité de patriarche. C'est-à-dire c'est que parce que Abraham était capable de cela, que sa vertu propre, qu'Isaac était capable de sa vertu propre, que Jacob était capable de sa vertu propre. Et Israël, en ce sens-là, n'a de légitimité pour être l'interlocuteur de Dieu dans la Torah que parce qu'il est la descendance des patriarches. Et tous ceux qui s'adjoignent à eux. Mais cette descendance-là, ça veut dire que le mérite en est à la racine d'identité qui commence à ce commencement-là des patriarches. Alors donc, comme je vous ai dit au début du cours, la prochaine fois, à partir de la prochaine fois, le cours commencera à 6h. Ceux qui veulent avoir des places, venez à 6h quand même.
Non,
c'est pas ça. Moi, je vais vous dire.
Je ne sais pas quand je vais.